mardi 13 décembre. Bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30, accompagnée encore une fois cette semaine de Raymond Poirier à la mise en onde. Raymond qui fait également la revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Mais très bien, très bien.
Ça va très bien. Excellent. Aujourd'hui, dans l'émission, plusieurs choses. On parle pas d'exposition, on parle d'événements à venir. Notamment, on va discuter avec Patrick Dubé du Centre Le Lieu qui va venir nous parler de la première exposition en camp au profit des artistes exposants qui est présentée au lieu à partir d'aujourd'hui. Il y aura d'ailleurs un en camp la semaine prochaine. Également aussi, Fanny Hénon-Lévy vient nous parler d'un spectacle de danse qu'elle est allée voir cette semaine, le spectacle de la compagnie FLAC, une chorégraphie de José Navas, ça s'appelle S. On rencontre également Vincent Roy, directeur artistique d'Ex-Muro, pour nous parler du projet qui aura lieu pendant le temps des fêtes au Jardin Saint-Roch. Ça s'appelle « Nous irons au bois », dont le commissariat est effectué par Émilie Roy. Et puis, on discute avec Simon Roy pour la suggestion musicale de cette semaine. Bonjour Simon.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. J'ai fait toute une découverte cette semaine.
Ah ouais? Quelle appelle?
Ben, c'est le mouvement, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est un collectif. Ça s'appelle Dogbot. C'est un genre de collectif qui est présent un petit peu partout dans le monde. Ça a été créé dans les années 2000 à New York. Puis, donc, ça s'est répandu un peu partout. C'est présent dans à peu près une trentaine de villes, un peu partout sur la planète. C'est des collectifs, ça fait penser un peu à des Pet Shop Boys, mais un peu pour les geeks. Donc, c'est des rassemblements d'électriciens, de musiciens, de sculpteurs, de programmeurs, de toutes sortes de talents vraiment variés. Puis, ils produisent de la musique. Donc, souvent, ça prend la forme d'un peu de sculpture. Des fois, ça va être simplement un programme sur l'ordinateur. Des fois, c'est des instruments de musique modifiés. Donc, Dogbot, vraiment intéressant. C'est une compilation qui s'appelle People Doing Strange Things with Electricity 2. C'est
Transformant
pour une exposition qui a eu lieu à Seattle en 2003. Donc, ces gens-là se présentent leur projet entre eux autres, puis ils ont décidé de faire une exposition, puis une trame sonore qui est sortie pour cette exposition-là. Donc, ben, c'est ça, c'est publié sur Comfort Stand Recordings, une étiquette qui est malheureusement défunte, mais il y a quand même plus d'une centaine d'albums sur l'étiquette. Donc, un album vraiment intéressant, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est assez éclectique comme musique.
Alors, on en écoute un premier extrait. Qu'est-ce qu'on écoute?
C'est Philastine. Donc, c'est ça, c'est tous les artistes de la ville de Seattle. C'est la pièce, ça s'appelle Figwig. C'est des ambiances de gare de train, un beat en 7-8, un peu de basse synthétisée. Pièce vraiment spéciale. Ensuite de ça, la deuxième pièce, c'est par Marcus Alesi, Bittencourt. La pièce s'appelle Rabo de Aera. Donc, c'est un artiste qui vient du Brésil. C'est de la musique à capoeira, mais générée par un ordinateur avec des algorithmes. Donc, musique automatique. Ensuite de ça, c'est Jason Freeman. Il a inventé un programme qui permet de parcourir les engins de recherche Nutella, un peu comme le programme LimeWire, c'est pour partager les fichiers musicaux.
Ouais.
Donc, on entre un terme ou n'importe quoi, puis le programme va aller chercher automatiquement un bout de pièce qui a rapport avec la recherche. Ils collent ça ensemble automatiquement, donc ça donne des pièces assez incroyables. Puis enfin, ben, on finit avec Lou Labelle. C'est des voix sur des petits enregistreurs, des transmissions radiospatiales, des bruits de clôture électrique avec un peu de musique 8 bits, donc un drôle de mélange.
Ben, Simon Roy, merci beaucoup. Puis on t'écoute dimanche soir dès 8h à Web Music.
Oui, exactement.
Et voilà, on s'en va en pause audio, on écoute un extrait de Figwig.
Thank you.
Alors voilà, c'était un extrait de Figwig de Phil Astin tiré de la compilation People Doing Strange Things with Electricity 2. J'aime bien le titre, tout aussi. Donc il y a d'autres personnes qui font des choses étranges avec l'électricité. À qui ça réfère? On ne sait pas, mais c'est bien sympathique. C'est l'heure de la revue de presse de Raymond Poirier. Raymond?
Oui, il y aura peut-être des gens qui feront des choses étranges avec l'électricité dans cette revue de presse. Qui sait?
Qui sait, hein? On saura la fin.
Ou au prochain mois multi, puisqu'il y a eu une conférence de presse la semaine dernière, et on a annoncé quelques éléments, un peu comme l'année dernière, donc c'est des petits avant-goûts avant les fêtes, avant le dévoilement intégral de la programmation du mois multi qui aura lieu quelque part en janvier prochain. Et donc, on a annoncé deux gros spectacles quand même, et des spectacles qui sont, comme à chaque année, assez intrigants, qui semblent assez stimulants. Alors, notamment, une performance qui s'appelle Attaché de Lino, qui est une artiste associée à Recto Verso. Et c'est une performance dans laquelle l'artiste portera un corset technologique qui va en fait permettre de capter les mouvements respiratoires, donc le souffle amoureux, on dit, entre guillemets. Et donc, ça sera retransmis et c'est les mouvements qui vont, et les respirations surtout, qui vont créer l'ambiance sonore de cette performance-là. Donc, j'aime bien l'idée, sincèrement. Et il y aura collaboration notamment d'Alexandre Burton et d'Alexandre Saint-Onge, donc des gens quand même assez impliqués dans la scène audio là, ici au Québec. Alors ça, c'est les 1er et 2 février à la scène multi, le mois ouvrant le 1er février, ben on imagine que ça risque d'être l'un des spectacles d'ouverture, si on peut dire. L'autre spectacle annoncé, ça s'appelle La jeune fille et la mort, c'est du bureau de l'APA de Québec. Ça avait déjà été présenté dans le passé, en 2010, en fin novembre, à premier acte, et donc on nous ramène cette pièce, donc c'est une salle de classe où on fait le portrait symbolique de la jeune fille d'après une œuvre appelée « Les premiers matériaux pour une théorie de la jeune fille » du collectif Tiquin. Alors, c'est des leçons de ballet, des chansons, sculptures, musique, un quatuor à cordes, donc ça risque d'être aussi assez intéressant. Ça, c'est les 9, 10 et 11 février prochains. Et autre ajout, c'est les 17 et 18 février, de 18h à très tard, les nuits numériques. En fait, il y aura plein d'activités d'installations vidéo, de performances son et lumière, intérieures et extérieures, autour de la coopérative Méduse. Alors ça aussi, c'est un nouveau volet qui fait son apparition, donc cette année au mois multi.
Ben voilà, si vous voulez donner des cadeaux à Noël, ça peut être des suggestions intéressantes.
Voilà. Et sinon, ben, on suit aussi l'évolution du personnel du Musée national des beaux-arts du Québec, avec évidemment la nomination de Lynn Ouellette comme de manière permanente à la direction générale. Mais ça allait amener aussi peut-être d'autres nominations, notamment le poste de directeur, directrice des expositions et des publications scientifiques qui était vacant. Il est occupé désormais par Anne Escapas, donc qui occupe donc désormais ce poste. Elle avait déjà participé donc à l'organisation de plusieurs expositions, que ce soit We Want Miles avec la Cité de la musique à Paris, Autodis avec la New Gallery de New York, La Planète Mode de Jean-Paul Gaultier avec la Maison éponyme de Paris. Donc elle a quand même une bonne expérience. Et ce que Mme Ouellette disait justement dans un communiqué de presse, c'est qu'elle possédait déjà un bon réseau européen, américain. Elle avait été associée à plusieurs expositions, donc ce qui faisait la pertinence là, de cette nomination.
Ben, félicitations.
Voilà. On se transporte à Montréal?
Ben oui, pourquoi pas?
Parce que pas juste à Québec qu'il y a un projet d'agrandissement de musée. Il y en a aussi à Montréal, en fait. On avait déjà parlé du Musée des beaux-arts de Montréal, qu'il y a des gros projets d'aménagement donc qui ont été lancés il y a quelque temps. Et là, on a appris cette semaine via la presse que le Musée d'art contemporain de Montréal, lui aussi, souhaite avoir un peu plus d'espace, un peu plus de place. On parle d'un projet de près de 88 millions de dollars. Le but, c'est de proposer un agrandissement au musée pour 2015-2016. Donc, de doubler presque la superficie, là, si on en met un peu. Le musée, dont l'aspect actuel date de 92, serait transformé in situ. On conserverait les voûtes où l'on stocke la collection non exposée. Il serait reconstruit selon un volume rectangulaire. Ça s'étendrait du boulevard de Maisonneuve jusqu'au bord de la rue Sainte-Catherine, le long de la rue Jeanne-Mance, très vitré aussi. Donc, l'idée est vraiment de bonifier tout ça. Et on parle donc d'un projet qui serait payé peut-être à 82% par les gouvernements canadiens et québécois, avec 15 millions de dollars qui proviendrait de donateurs, bien entendu. Est-ce que ce sera accepté? C'est la grande question.
Dossier à suivre.
Et sinon, ben, on parle de musée. Je suis tombé sur une initiative intéressante dans le nord de la France. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs. J'ai pas eu le temps de faire fouiller là-dessus, mais je trouvais ça très intéressant. C'est un musée qui essaie de développer plein de programmes pour permettre aux non-voyants d'apprécier l'expérience muséale. Alors, le premier élément qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une maquette grandeur 1/100 du musée, et donc qui permet aux non-voyants d'appréhender les espaces d'exposition, donc de pouvoir promener leurs mains, saisir le type de moulure, le type d'architecture, la grandeur des espaces où sont présentées les œuvres. Et ça, c'est un peu la première étape du programme qu'ils ont mis en branle. Ensuite, l'idée, c'est de créer un visio-guide qui serait disponible, donc qui puisse avoir quelqu'un qui décrit intégralement les œuvres de manière très précise, ouais. Un guide audio spécialement destiné aux non-voyants. Ensuite, l'idée serait aussi de créer un espace spécifique pour les non-voyants, parce que bon, on va décrire une œuvre, par exemple, en parlant d'une texture, une sculpture, en parlant de matériel qui serait utilisé. Et donc, l'idée, ce serait de leur permettre aussi, avec des gants, de pouvoir toucher à soit des reproductions des œuvres, à soit carrément les œuvres elles-mêmes, du point de vue architectural, donc pour pouvoir pousser un peu plus loin l'expérience de visite qu'ils pourraient avoir dans un contexte muséal.
Intéressant.
Alors, peut-être qu'il y aura d'autres musées qui vont prendre si ça marche.
Ben, je sais qu'au Musée national des Beaux-Arts du Québec, il y avait déjà eu une exposition à l'intention des non-voyants, donc avec des sculptures qu'ils pouvaient toucher. C'est sûr que là, on n'est pas dans le même registre, mais il y a déjà, je pense, ce souci-là là, qui est très présent.
Et enfin, dernière petite nouvelle, je ne sais pas si il y a des auditeurs, auditrices qui ont un iPhone ou un iPad, mais j'ai une petite recommandation de téléchargement pour vous. C'est la Tate Modern qui a lancé un petit guide, en fait, qui s'appelle « The Tate Guide to Modern Art Terms ». Alors, si jamais vous avez envie de savoir en quelle année Rodin a peint le baiser, c'est quoi les caractéristiques du surréalisme, on ne sait pas exactement, on a une petite discussion. Si on veut avoir des définitions de termes précis liés à l'art contemporain, eh bien, la Tate a décidé de mettre ce dictionnaire visuel-là disponible pour téléchargement pour quelques dollars, bien entendu. Et parallèlement, il y a plus de 300 œuvres pour l'instant qui sont présentées et décrites à l'intérieur de cette application-là. Alors, si vous voulez avoir un peu plus de détails, ben, allez-y voir directement là, de Tate Guide to Modern Art Terms. Et si vous voulez avoir les liens des éléments que j'ai mentionnés en chronique aujourd'hui, c'est l'aérospatiale.wordpress.com.
C'est terminé. Merci beaucoup, Raymond.
Ça me fait plaisir.
On peut écouter Raymond. Je sais que Raymond n'aime pas qu'on fasse la publicité de son émission, mais si vous appréciez sa douce voix et sa vivacité, vous pouvez l'écouter le vendredi à 17h30 à la VRBD.
Oui, effectivement.
Voilà. On s'en va en pause audio. On écoute Marcus Alessi Bettencourt, Rabot des ARA, et ensuite on discute avec Vincent Roy. Strange Things with Electricity, tout sous une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, si vous voulez trouver les liens pour le téléchargement, habituellement, c'est gratuit. Ça se trouve aisément sur Internet. Vous pouvez aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Raymond Poirier est en train de mettre les liens pour la revue de presse et vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion si vous devez quitter et ne pouvez pas écouter la suite. On approche lentement, mais mais sûrement du temps des fêtes. En fait, je dirais même plus rapidement qu'autre chose. Une période habituellement assez tranquille au point de vue des arts visuels, mais à Québec, on a la chance d'avoir Ex-Muro qui dynamise notre temps des fêtes. Et pour discuter du projet qui sera présenté au Jardin Saint-Roch, nous irons au bois. Au bois, pardon, il n'y a pas de transition, de liaison. Je me mêle. Bref, on reçoit Vincent Roy, directeur artistique d'Ex-Muro. Bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Ben oui, toi aussi?
Oui, ça va très bien. Là. Le temps des fêtes arrive, justement, les vacances.
Sens-tu la magie ou le...
Non, pas encore. J'ai pas de sapin. Moi, okay. C'est quand je mets un sapin, là, puis encore là. Bref. Sur ce, la magie du temps des fêtes, vous allez en parler avec nous irons au bois. Quel est le projet?
C'est un projet, ça va être assez spécial. Nous autres, on a été invités par la Ville de Québec à proposer quelque chose.
C'est la Ville là, qui vous a contacté.
Oui.
Ah ouais, c'est intéressant.
Donc, oui, puis ils voulaient quelque chose en art visuel. Puis pour greffer, ils voulaient une activité en art visuel dans le cadre du festival Québécadabra.
Oui.
Donc là, on était un peu surpris, oui et non. On voulait proposer quelque chose à l'extérieur. La thématique de Noël, c'est une thématique qui n'est pas souvent exploitée par les artistes, par les commissaires. Donc, on a dit, ah, ben voilà, l'occasion est là. La motivation aussi de travailler dans ce contexte-là, je vais te le dire tout de suite, c'était justement de proposer une autre façon de percevoir le temps des fêtes.
Oui, c'est ça, parce que souvent, c'est des beaux sentiments mielleux là, qui sortent.
Ben, c'est ce qu'on veut provoquer chez les gens. C'est ça que moi, je trouvais un peu spécial, de faire en sorte qu'on provoque la magie. Je pense que la magie est là ou elle n'est pas là.
Ouais.
Donc là, on va tout utiliser ça aussi, les réflexions, le questionnement, qu'est-ce que le sens maintenant de Noël, qu'est-ce que c'est pour les gens, cette espèce de magie imposée là, est-ce qu'on embarque là-dedans? Est-ce qu'on embarque sans le savoir, même si on ne veut pas embarquer dans cette magie de Noël-là? Est-ce que c'est juste un stress? C'est ça qu'on veut. On veut toucher à ces questions-là.
Puis là, ben, dans le fond, vous avez fait appel à Émilie Roy pour le commissariat. Qu'est-ce qui vous a amené à l'approcher, elle, spécifiquement?
Ben, moi, j'aimais bien son travail de commissaire. Je trouve qu'elle va saisir assez rapidement. On n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce projet-là. Donc, tout de suite, elle a choisi ses artistes. C'était tout de suite cohérent, puis elle saisit bien le sens aussi qu'on s'entendait sur l'idée de qu'est-ce qu'on présente, pourquoi on présente ça à Noël, c'est quoi l'intérêt. Donc, à partir de ce moment-là, on travaille super bien ensemble, on s'entend bien. Ouais.
Puis là, dans le communiqué, en fait, on parle d'une étrange forêt de sapins au Parc Saint-Roch. Est-ce que tu as une idée un peu de quelle forme ça va prendre?
Ben, c'est étrange, parce que je sais pas quand tout ça va ressembler à quoi. En fait, oui, j'ai une idée, mais on a dessiné le parcours, on a dessiné la forêt. Il va y avoir 450 sapins, des vrais sapins, qui vont être installés dans
tout le
jardin. Oui. Ça va être sous forme plus d'un sentier, mettons. Il va y avoir 8 clairières, si on peut dire. Donc là, les œuvres vont être installées dans ces clairières-là. Il va y en avoir 8. Donc, on va parcourir le sentier, finalement, là.
Comme un sentier pédestre dans le bois, là.
Oui, c'est ça. En plein milieu du centre-ville.
En plein milieu, c'est intéressant quand même, l'idée de recréer la forêt au centre-ville. C'est un peu paradoxal. J'imagine que c'est volontaire aussi.
C'est le contraste aussi. Puis l'idée de créer aussi une ambiance. C'est un lieu où est-ce qu'on n'est pas habitué de marcher dans une forêt en ville. Effectivement, déjà, juste de marcher dans des sapins, c'était déjà intéressant, mais là, avec ponctué d'œuvres d'art comme ça, en art actuel, ça va être assez spécial.
Ouais, puis j'imagine pour les artistes aussi qui vont participer, il y a quand même une contrainte que ça va être dehors pendant l'hiver, donc ça doit, ça doit les pousser à se questionner encore plus là, sur leur
travail. Effectivement, puis la plupart, ils ont tout apprécié, je pense, cet aspect-là. Il y en avait qui avaient déjà fait de l'extérieur, d'autres, jamais. Donc, c'est toute l'approche est différente. Hein. L'approche institue, même à l'extérieur, c'est le choix des matériaux, c'est le vent, c'est la neige, la pluie, est-ce que ça faut se déneige bien?
C'est quelqu'un qui pratique le dessin, notamment, ne peut pas offrir un dessin sur papier de la même manière.
C'est ça, exactement. Donc, ça va être plutôt sculptural, installatif.
Ben oui.
Il y a Éric Dorion qui va présenter une installation sonore. Ça va être plus différent, mais le reste, c'est plus de sculpture. Puis, il faut dire aussi que nous autres, on est on est intégré dans la programmation, comme je disais, le Québec à Dabra, mais dans la section des... Faut que je le dise comme faut. Je pense que c'est pas Nuit Magique. Soirée Magique.
Ouais,
parce que Nuit Magique, c'est la chanson dont on ne veut pas avoir dans la tête.
Oui, c'est ça, on n'en parlera même pas.
Mais moi, il va peut-être la mettre après, non?
Non.
Okay.
S'il vous plaît, non.
Donc, la soirée magique. Donc, ça commence à 15h, puis ça finit à 22h. Donc, okay. On y était plus dans le soir. Ambiance nocturne avec éclairage.
Il faut vraiment y aller à partir de 15h pour en profiter pleinement.
Exact.
Puis, peux-tu nous parler de quelques-uns des artistes qui seront présents? Il y a quand même pas mal d'artistes.
Je vais garder
des
surprises quand même, mais c'est pas mal tous des artistes de Québec. Il y a Mathieu qui est retourné au Saguenay. Je peux vous en parler vaguement.
Oui, on ne va pas dans le détail. On y va largement. Ça donne un goût.
Comme par exemple, il y a une artiste, Frédérique La Liberté, elle va recréer la scène où le Père Noël est rentré en collision. C'est un accident de voiture.
Oh. OK.
La voiture du Père Noël.
Ah ouais? Hein?
Ouais.
Ben, il est tout seul dans le ciel.
Maintenant, il voyage en voiture.
Ah ben ouais, OK, carrément, c'est
ça. Oui, on sait, c'est ça. Puis, il y a aussi, qu'est-ce que je peux dire, il y a Christian Messier et Isabelle Demers qui, eux autres, vont jouer avec le centaure, la figure de mythologie grecque, mélange de homme et de cervidé.
OK. Oh, on peut penser au reine, hein, déjà.
Oui, c'est ça, peut-être. Mathieu Valade, lui, il a pensé à une armée de sapins. Blaise Carrier-Chouinard et Amélie Laurence Fortin, eux, vont faire un espèce de monument commémoratif des oubliés de Noël, je dirais, les itinéraires, ouais, les traités de ça.
C'est certain qu'il va y avoir une dimension sociale. Là. C'est presque incontournable qu'au moins un artiste ou plusieurs abordent cette dimension-là.
Oui. Puis, c'est un peu... pour moi, en tout cas, le rôle aussi de l'artiste professionnel, c'est de quelque part de poser un regard sur la société et l'exprimer justement par son travail des questionnements. Et il y en a qui sont plus engagés, effectivement. D'autres, un peu plus subtilement, comme Dan Bro, lui, il a fait une installation, c'est purement formel. Donc lui, il s'est inspiré des codes classique des de Noël pour refaire un peu avec un travail formel, une peinture au sol. Donc, puis je parlais d'Éric Dorion avec son couloir sonore qui va décomposer un cantique de Noël. Donc, c'est la cantique des cantiques des cantiques 6 fois.
OK.
Donc, il va nous proposer là, toute la dégénérescence d'un cantique. Donc voilà, il y a Hugo Nadeau aussi.
Ça risque d'être assez baroque, évidemment. Hugo Nadeau, c'est dans le foisonnement.
C'est dans l'auteur, lui, Francis Arguin. Donc, est-ce que j'en oublie? Je pense que j'ai nommé les 8. Hein?
Je pense que
oui. Oui.
Je ne suis pas tout à fait certaine. Des fois, on en oublie. Là, mais, d'ailleurs, peut-être pour revenir sur l'année, parce que il y a ce projet-là qui commence le 22 décembre, dès 17h environ.
Oui, le message est là. À 17h. On va partir dans le jardin Saint-Roch le soir du vin chaud.
Oh, parce que quand même, on n'ira pas se refroidir là. Mais qu'est-ce qui s'en vient là, pour Ex-Muro? Parce que là, quand même, 2011 a été une grosse année. J'imagine qu'il y a des projets là, qui
Il y a encore des projets. Moi, je veux faire des petits avec le projet des boîtes électriques.
Avec Artistique Avenue Avenue Citoyenne.
Oui, exactement. Avec Avenue Citoyenne, surtout avec les organismes, j'ai bien aimé ça, là, travailler avec les organismes et les artistes professionnels.
Ça permet aux artistes et à la communauté là, de travailler là-bas.
Oui, puis l'expérience a été super concluante. Je vais proposer quelque chose sur la pente douce encore. On a essayé quelque chose l'année passée. On va retravailler ça encore cette année. C'est des projets qu'on va proposer, ils ne sont pas encore proposés. On a quelque chose pour la manif d'art qui n'est pas confirmé encore. Il n'y a rien confirmé, mais il y a beaucoup de projets là.
Ça bouge.
Puis j'ai des idées pour l'hiver prochain, même en extérieur l'hiver. C'est... On n'a pas fini de nous voir dans le centre-ville.
Mais tant mieux, parce que l'art dans la rue, c'est pas une initiative qui est nécessairement si fréquente ou si récurrente. Ça arrive, il y a des événements à l'extérieur, il y a l'art public, mais comme ça, cette idée d'une récurrence de l'art dans la rue, ça reste quand même assez important là, d'avoir ce dynamisme-là à Québec.
Oui.
Surtout considérant l'administration actuelle qui veut que la ville soit une fête et un party dans le stop.
Les gens aussi, les citoyens en redemandent. C'est ça que moi, ma plus belle récompense, c'est ça, c'est de voir les gens, hey, on en veut d'autres, puis c'est super trippant, puis...
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un dialogue avec les citoyens? Est-ce qu'il y en a qui communiquent avec Exmuro pour encourager, pour donner leurs commentaires?
Oui, bien moi, je ne suis pas témoin de tout, mais quand je vois, par exemple, faire de l'entretien sur les boîtes électriques, des fois, on va enlever un collant, ou même en les installant, ou en écrivant les textes, le projet du charme, là, les 30 textes, là, les gens s'arrêtaient, puis les gens nous disaient merci, c'est donc bien le fun. Donc là, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir, là, que les gens aimaient ça. Parce que c'est à faire aussi.
C'est gratuit.
Oui, puis c'est. Je pense que ça fait du bien d'avoir quelque chose d'autre que la publicité. C'est moins lourd, puis c'est ouvert plus à d'autres choses. Là. Ça a toujours d'autres sens.
Puis en même temps, dans le temps des fêtes, ça va faire du bien de voir autre chose que. Tout faire des lumières de Noël, pareil, avec les glaçons, puis des
autres. On va voir l'impact.
La proposition n'est pas la même. Ça va faire du bien d'entendre autre chose que de la musique de Noël traditionnelle de Sandracha. Oui. Donc, on vous remercie pour ça.
Ah, ça fait plaisir.
Puis, c'est ça, le vernissage. Nous irons au bois. Et vendredi 22 décembre, dès 17h, donc le vin chaud est là, va vous attendre. L'équipe d'Exmuro également, les artistes. Vincent Roy, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci à toi.
Et nous, on s'en va en pause au retour, on discute avec Fanny et non Lévi.
La Korrigan, une brasserie artisanale qui fait des publicités artisanales. Le mardi 13 décembre à 19h, une soirée d'impro publicité se déroulera à la Korrigan. Sur scène, musiciens et comédiens improviseront pour vous concocter des publicités radiophoniques inédites enregistrées en direct. Cette soirée d'impro publicité est ouverte au public. Vous pourrez même créer votre propre publicité. Premier arrivé, premier servi. La Korrigan, 380 rue Dorchester.
Jusqu'au 21 décembre, ne manquez pas les 12 jours de Noël de Tania dans Change de disque. Courez la chance de gagner un cadeau par jour pendant 12 jours. Membre de CKRL, soyez attentifs entre 15h30 et 17h30 en semaine.
Un concours qui fait rapapapa.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
Try it now.
Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé et présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Seulement au 89.1.
This is Tic-Tac-Toe.
Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
Il est 18h précise, on entend la dernière demi-heure de l'aérospatiale. D'ailleurs, c'est notre avant-dernière émission de l'année. À partir de la semaine prochaine, on tombera en congé. On vous reviendra en janvier. Et parlant de fin d'année, hein, c'est la fin des spectacles un peu partout. Et Fanny Hanon-Lévy est allée voir un spectacle de danse hier.
Hier, S de José Navas, donc S, la lettre S.
Ben ouais.
José Navas et la compagnie Flac. S qui était précédée de Villanelle, qui est une danse écrite, enfin chorégraphiée et interprété par José Navas. Là, je vais me concentrer sur S principalement.
C'était attendu, hein, je pense, comme événement.
Très attendu. Ça dure 3 jours. Donc, c'était hier soir, ce soir à 20h et encore le 14, donc après-demain à 20h au Grand Théâtre. Je décide d'en parler parce que vraiment, c'est un coup de cœur. Ça finit l'année en beauté. On finit sur une note épurée dans ce temps des fêtes qui est très chargé.
Ça serait quoi, versant d'odeur?
Alors là, on va totalement à l'inverse de cette saturation de couleurs. On va dans des tonalités de blanc, dans de l'épurée, dans une œuvre qui est abstraite, organique. Est-ce rien que le titre est déjà par lui-même épuré? Est-ce comme Satie? Est-ce comme silence? Est-ce comme la forme sinueuse du mouvement?
Ben ouais, c'est ça, l'ondulation.
Donc je parle de Satie parce que c'est illustré par la musique d'Eric Satie, illustré et utilisé. Enfin, ça fonctionne ensemble, hein, la chorégraphie.
Ben ouais.
Et beaucoup de silence. Énormément de silence, le vide, une thématique qui revient à tous les niveaux, on va en parler. Donc on parle d'abstraction, je vais aussi en parler, puisqu'on parle d'art visuel. Là, il y a une référence qui est vraiment très, très, très globale à l'histoire de l'art, mais spécifiquement à cette période-là. D'ailleurs, le choix Eric Satie, en faisant un peu mes recherches, donc les musiques choisies, c'est Gnosienne et Gymnépédis. Je pense que ça se dit comme ça. Gnosienne, ça veut dire fête des enfants nus en grec.
Oh, des enfants nus.
Fête des enfants nus. Donc là, si vous allez voir cette chorégraphie, on a des corps qui se dénudent au fur et à mesure. Mais jamais, en tombant jamais dans la vulgarité, on parle d'un corps. C'est une célébration du corps, du corps féminin, masculin, sans distinction du genre, avec vraiment la peau, le rythme du corps, le silence du corps, le bruitage du corps qui est utilisé beaucoup sur le sol. On a une scénographie qui est encore une fois très épurée, avec une scène blanche et un fond noir.
Ah oui, c'est pas
sans nous faire penser à Kandinsky. Moi, j'y ai pensé tout de suite. Puis ouais. Évidemment, je saute du coq à l'âne, mais ça a un rapport dans le fond, parce qu'Eric Satie a écrit ces pièces-là, c'est dans ses premières écritures musicales, et c'est fin du 19e siècle. Et dans ses rencontres par après, il rencontre quand même tous les mouvements il rencontre beaucoup d'acteurs du mouvement cubiste et il rencontre aussi les dadaïstes. Donc on est vraiment dans la même mouvance et vient après l'art abstrait.
Ouais.
Donc on est vraiment là dans une œuvre de José Navas qui se tient, tout se tient tant au niveau musical qu'au niveau visuel. Donc au niveau visuel, je reviens à cette
conceptuellement,
scène-là.
Ça a l'air de tout tenir.
Conceptuellement, est-ce qu'il est parti aussi loin? Dans le fond, dans la description du mot du chorégraphe et de la description de l'œuvre, il n'y a pas d'éléments qui nous donnent ces éléments-là.
Okay.
Est-ce que moi, je pars très loin dans mon idée, peut-être, ouais. Mais je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas, parce qu'il y a vraiment un dépouillement et vraiment, comme on peut le retrouver dans le suprématisme de Malevich.
Je mets ça noir et blanc, je pensais au contraste.
On pense au contraste, mais après on arrive vers du carré blanc sur fond blanc. On s'éloigne de plus en plus de la couleur, du chichi, de tout ce qui peut polluer finalement
le sens,
la direction vers le sens et le vrai. Donc là on est dans une philosophie nihiliste. Donc le nihilisme, c'est une négation radicale du monde qui nous entoure, de l'injustice,
du sens finalement.
Du sens oui et non, parce que par le nihilisme, on va chercher du sens, on va essayer d'approcher cette vérité-là, ce que justement ces corps-là vont essayer de faire et nous manifestent. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette pièce-là. C'est à la fois, on n'a pas besoin d'être intellectuel pour aller voir cette pièce-là. C'est pas du tout l'impression que j'ai envie de donner. C'est que c'est une pièce qui est très 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 sensible, très poétique, avec des costumes blancs. Comme une seconde peau sur les interprètes. Il y a quand même 8 interprètes sur scène. Il y a très souvent dans la scénographie, donc ils sont en duo, tantôt seuls, tantôt. Donc il y a vraiment à chaque fois comme une symétrie dans la façon dans la chorégraphie elle-même. Aussi beaucoup de renvoi au cubisme, aux formes géométriques dans le mouvement lui-même. Ah ouais. avec des frôlements, on se touche, on s'entrecroise, on se superpose, mais là encore, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a vraiment une recherche autour de l'art abstrait et de ses origines. Je pense qu'il y a eu vraiment une démarche d'aller chercher du côté des cubistes, de leur travail de déstructure,
ouais,
pour aller chercher du sens. Donc,
on défait pour
refaire, et puis surtout on défait pour aller chercher un esthétisme, un mouvement qui est pur, un mouvement qui s'inscrit dans la sensibilité, dans la poésie, dans la grâce. Le mot grâce, c'est vraiment le mot clé du show, avec évidemment des ondulations dans l'intensité au cours du spectacle. C'est un spectacle qui est relativement court, donc quand même assez digeste.
Oui, parce que la danse, souvent, c'est pas très long, c'est des performances assez difficiles là, pour les danseurs.
Ah vraiment, mais là c'est d'un niveau en plus, d'un niveau chorégraphique assez élevé. On a des danseurs qui sont extrêmement précis dans leurs mouvements. Donc, on est vraiment dans un esthétisme absolu, non ? C'est sûr que c'est, je dirais pas que c'est la plus belle pièce de l'année, mais c'est quelque chose d'assez incontournable. C'est vraiment quelque chose à voir pour revenir à l'essentiel.
et réfléchir aussi, parce que tu me disais avant ta chronique, là, ça va être difficile, là. Je suis encore en train de parler, j'ai encore des images, mais de penser, j'ai des images, là, ça a l'air de rester longtemps après.
Ben, disons que un spectacle de cette envergure, ça prend du temps à se digérer, ça prend du temps à maturer, ça avance, c'est un cheminement. C'est sûr qu'on sort pas indemne d'un spectacle comme ça. Qu'on aime ou pas la danse, on peut pas être insensible à l'énergie qui est dégagée par cette troupe de danseurs. On sent qu'ils dansent ensemble quand même depuis assez longtemps. C'est quand même un spectacle qui est présenté depuis 2008. Donc,
ils sont
quand même bien tournés. Et puis extrêmement professionnels. Puis on sait que José Navas a été influencé par Merce Cunningham, qui est un très, très grand de la danse puis de la performance. Donc, c'est toutes ces influences-là qui viennent nourrir ce spectacle-là.
Qui ancre aussi le spectacle historiquement. Tout à l'heure, tu parlais de l'abstraction. On est quoi, dans les années 50-60 avec Merce Cunningham, je pense?
On est un peu plus tard, mais l'abstraction...
Ouais, bah, mal avec les,
non, mais t'as raison. Merce Cunningham, c'est à peu près ça. C'est à peu près 60-70, là, le gros de son travail. Mais c'est l'abstraction a énormément évolué jusqu'à aujourd'hui, et elle est passée par plein de stades, mais la rupture a vraiment été faite avec Malevich. Bon, on a nos trois grands prêtres de l'abstraction. On a Piet Mondrian, on a Malevich et Kandinsky, mais qui partent dans des directions très différentes. On a une scène blanche pour rebondir sur Kandinsky, parce que Kandinsky parlait de la couleur et puis de ses prises, puis avec un symbolisme très fort. Là, sur la scène, on a une scène blanche, mais il y a un travail qui est très important au niveau de l'éclairage.
Ouais.
Évidemment, une scène blanche avec une lumière crue pendant une heure, c'est un peu plate, on s'entend. Donc, on passe avec des tonalités vraiment très subtiles, mais cet éclairage-là va vraiment créer le lien Ouais. Entre les scènes, puis une progression aussi, cette progression, je parlais d'intensité, cette progression dans l'intensité, elle est aussi amenée par cet éclairage-là. Donc voilà, je vous le conseille fortement.
Tu conseilles, tu continues d'y réfléchir.
Je continue d'y réfléchir.
Excellent, Fanny et non Lévy, merci beaucoup.
Merci à toi.
Donc on répète, hein, c'est ce soir à 20h au Grand Théâtre et demain à 20h au Grand Théâtre. J'imagine que vous êtes peut-être mieux d'appeler pour savoir s'il y a des billets ou tout ça là, pour vous assurer d'avoir une place si vous avez fortement envie d'y aller.
Moi, c'est le Grand Théâtre.
C'est le Grand Théâtre.
Il y a de la place.
Oui, mais des fois, les spectacles sont assez courus, donc on s'assure quand même. Ça, c'est ma prudence à moi. Je vous donne un conseil, voilà. Conseil personnel. Donc, Fanny et non Lévy, merci beaucoup. On s'en va en pause audio. On écoute Jason Freeman avec Network Oralization for Nutella Dark Bot Mix sur les ondes de CKRL. Comme ça, j'aurais pas de difficulté à dire. C'est tiré de l'album People Doing Strange Things with Electricity 2. Une suggestion de Simon Roy. Je le répète, hein, vous pouvez trouver l'émission en balado-diffusion, des communiqués, toutes sortes d'informations, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, on le met à jour assez régulièrement, on le fournit, on l'alimente. Aussi, si vous voulez être tenu au courant des activités de l'aérospatiale, sans devoir aller sur le site Internet, vous pouvez aussi devenir ami avec l'aérospatiale sur Facebook. On est là et on est très dynamique. Parlant de dynamisme, en fait, c'est surprenant, c'est aussi dernier, comme je le disais plus tôt en début d'émission, ça devient un peu plus tranquille dans le monde des arts visuels, et là, cette année, c'est contraire, ça s'éveille, et pour la première fois au lieu, il y aura une exposition en camp. Donc, pour en parler avec nous, on rencontre Patrick Dubé, qui organise cette exposition encore-là, et qui également travaille aux communications du lieu. Bonjour Patrick!
Bonjour!
Ça va bien?
Très bien, toi?
Ça va bien. Et là, ça a commencé aujourd'hui, là, l'exposition.
Oui. Bon, on est encore on finit le montage, mais c'est pas mal établi là, comme exposition présentement.
Et bon, c'est la première au lieu. C'est assez rare là, qu'on ait ce type d'événement-là à Québec. Est-ce que la demande venait des artistes? Est-ce que c'est le lieu qui a décidé de...
C'est le lieu, dans le fond, qui ont décidé d'organiser. On avait une période vide, si on peut dire. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, ben comment... promouvoir le centre, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de centres d'artistes, tout ça, qui organisent présentement des encans. Et c'est souvent au profit du centre du centre d'artistes.
Les artistes donnent,
voilà. Ils reçoivent peu. Donc, on s'est dit, bon, voilà, contre-courant, on va offrir 100% du profit aux artistes dans le cadre de l'encan, le lieu, tout simplement.
Donc là, les œuvres, il y a quand même, il y a quasiment une quarantaine d'artistes.
Il y a une centaine d'œuvres, 45 artistes environ. Et c'est très varié.
C'est très varié. Puis d'ailleurs, vous avez, j'imagine qu'il y a eu cette volonté-là, bon, de variété certainement, mais également les prix, là, les enchères commencent assez bas. Là. On peut être assez surpris du
à
mise minimale. Là, je pense que c'est rare qu'à bosser. Je pense qu'il y a une de ses œuvres qui est à mise minimale de 70 $ ou...
Écoute, je vais te dire que les trois œuvres de Thierry Arcan-Bossé sont à 50 $ comme prix de départ. Mais par contre, c'est sûr qu'on souhaite bien sûr que ça monte. Et ça, on va voir avec l'encan. Mais oui, dans le fond, on voulait situer des montants préétablis. Donc, dans le fond, ça jouait entre 1 et 100 $ pour les artistes. Okay. Ils choisissaient laquelle montant ils voulaient entamer leur la mise... pour leur œuvre, pardon. Et de ça, ben voilà. Donc, c'était une façon de rendre accessible l'art, surtout pour les gens, parce que souvent, on pense que c'est inaccessible de s'acheter des œuvres d'art.
Cher,
et voilà. Donc, en jouant avec ça, ben on rend ça abordable. Puis, on veut faire ça aussi dans le temps de Noël, donc c'est festif. Donc, ça va être un gros party ce jeudi soir.
Ben oui, c'est ça. Puis là, la formule, bon, là, il y a l'exposition.
Oui.
Et jeudi, un 5 à 7 suivi d'un encan.
Oui, avec l'encanteur, c'est M. Jean-Yves Fréchette.
Vous en parlez comme étant très dynamique.
Ah oui, il est. Puis, si tu y es, tu vas le voir. Et voilà. Donc, le 15 au soir, disons que c'est la soirée.
Okay.
Ce qui va être vendu ce soir-là va être vendu et même les gens vont partir avec les œuvres.
Okay.
Donc, ça va être un peu en déconstruction l'exposition. Et pour le reste, le 16, 17, 18, c'est les œuvres qui vont demeurer là. Toujours en encan, mais en encan silencieux. Donc, les gens vont se présenter. S'il y a une œuvre qui les intéresse, ils vont remplir un petit bout de papier avec le numéro de l'œuvre qui les intéresse. Et si quelqu'un repasse, ils misent plus haut. Donc, on va recontacter la personne pour lui dire, OK, il y a quelqu'un qui a misé plus haut, est-ce que tu veux continuer?
Ah oui, c'est une logistique, ça, là.
Quand même. Et voilà, ben, de tout ça, ben, c'est au profit des artistes, puis on veut qu'ils fassent l'argent pour une fois.
Ben oui, puis la sélection des artistes, il y en a 45, c'est quand même pas mal. Comment vous avez procédé? Vous avez fait un appel d'offres, après vous avez... accepter tout le monde?
On a fait un appel d'œuvre et ça a été beaucoup plus de bouche à oreille qu'un appel d'œuvre parce que ça s'est passé tellement vite.
Ben oui, tout le monde devait être vraiment content de ça. Là.
Et voilà, donc c'est du réseautage, donc à un moment donné, il y a des gens qui embarquent tout ça, ça fait boule de neige, comme on peut dire. Et de ça, ben, on se ramasse avec des artistes émergents, des artistes reconnus, ça vaut la peine de venir voir, je pense.
Puis en même temps, ça offre une alternative. On était dans l'alternative au temps des fêtes avec Ex-Muro. Un peu plus tôt, on discutait de Nous irons au bois. Ben, c'est un peu la même chose avec le lieu. On sort des cadeaux Made in China puis des ambiances d'achat.
Tout à fait. Et en plus, ben, nous, on voulait quand même... on avait mis comme un format établi, tout simplement. Donc, c'est en bas de 2 pieds, okay. Environ. Là.
Ouais, parce que sinon, il n'y a pas de place. Pour...
Et voilà, de un, et aussi, ben, quand c'est une grosse œuvre, souvent, ça a une plus grande valeur et tout. Donc, à partir de ça, ben, c'est ce qui est présentement au lieu.
Puis comment ça va s'organiser, tout ça? Parce que là, bon, 45 artistes, tu me parlais tout à l'heure d'une centaine d'œuvres. La galerie n'est pas si grande que ça non plus. Comment vous organisez ça? Un gros accrochage à l'italienne?
Disons qu'il y a des cimaises dans l'espace, on n'a pas le choix. Par contre, on avait peur que ça fasse une pizza, comme on peut dire, mais pas du tout. C'est très cohérent, ça circule bien. On a rassemblé les artistes ensemble, on n'a pas voulu trop mêler les œuvres ensemble ou placer ça en ordre chromatique ou tout ça. Donc c'est vraiment les zones de chaque artiste pratiquement.
Ouais.
Et ça passe très bien. C'est fluide.
Et là, c'est un premier encan. Est-ce qu'on est en train de commencer une tradition au lieu?
Ben, on le souhaite. On va voir l'année prochaine. Déjà là, j'avais eu des gens qui se sont informés cette semaine s'ils pouvaient avoir en direct web pour faire l'encan et par téléphone. On n'a pas encore le système parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais il y a un engouement. Puis si l'année prochaine, on va le voir cette année. Et c'est sûr qu'on va récidiver l'année prochaine si c'est...
Oui, avec l'encan silencieux, peut-être un peu plus sur Internet aussi, la question.
Et voilà, mais faut prendre en considération, bien sûr, les médias sociaux. Mais la technologie et aussi, tu sais, il y a des gens à Montréal qui sont peut-être intéressés à certaines œuvres d'artistes de Québec.
Ben ouais, c'est ça, de permettre d'élargir le phénomène. Et peut-être une dernière question. Peut-être pas une dernière question. Moi, on parle de 45 artistes, plusieurs œuvres. Le catalogue est disponible d'ailleurs sur le site du lieu, là, si on veut voir.
Exact. Si vous voulez voir le catalogue, c'est sûr que c'est à titre représentatif. Toutes les œuvres n'y sont pas dedans, mais c'est sur inter-lelieu.org. Vous avez accès, vous allez voir, c'est marqué en camp. On clique dessus et vous allez pouvoir télécharger le catalogue. Aussi, on est sur Facebook, Twitter, donc c'est facile de trouver l'information par les médias sociaux.
Puis peut-être, là, c'est vrai, c'est ma dernière question, quelques coups de cœur dans les œuvres qui sont présentées, c'est toujours difficile.
Mais je m'attendais à ce que tu me poses la question, je vais t'en
dire.
Je vais tout lui nommer les noms, mais non, ça veut dire... je vais t'avouer, selon moi, il y a deux sortes d'acheteurs. Il y a des gens qui vont venir pour le nom, la notoriété de l'artiste, il y en a d'autres qui vont venir pour les coups de cœur. Donc, moi, je veux dire, c'est sûr que j'en ai. Il y a Thierry Arcambossé, Jean-Marc Mathieu Lajoie, il y a des petits casse-têtes, c'est incroyable.
Annie Baillargeon, F. Cadieu, Isabelle Demers, Paul Brunel, on pourrait, la liste est longue, Christian Messier, Raphaël Sotolicchio, Mathieu Vallade, Georges Volpe, dans le fond.
Marie-Sigrid Lefebvre, je vais t'avouer, j'aime bien.
Moi. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a?
C'est des photos, quand même grand format, deux pieds, un peu inspiré des années 50-60, quand les gars faisaient des pauses sur le bord de la plage.
Muscle Beach aussi, à Los Angeles.
Exact. Donc, j'aime bien cette série-là. Mais bon, c'est relatif.
Hein. Est-ce que tu proposes quelque chose?
Non, pas cette fois-ci, mais peut-être l'année prochaine.
On verra l'année prochaine.
Exact.
Excellent. Ben, Patrick Dubé, merci beaucoup.
Merci.
Donc, vous allez sur le site du lieu, vous trouvez le catalogue pour l'exposition en camp également. Ben, l'exposition va être accessible à partir de demain. On n'oublie pas, jeudi, 5 à 7, c'est festif, j'ai l'impression. Hein, c'est un party de Noël en même temps.
Entre autres.
Et l'encan qui aura lieu animé par Jean-Yves Fréchette. Exact. Puis par la suite, ben, si vous voulez retourner voir pour les œuvres qui restent pour faire une mise sur l'encan silencieux, ben, ce sera possible.
Voilà. Mais la grosse soirée, c'est jeudi.
C'est jeudi, on ne l'oublie pas, on le met à notre agenda à compter de 5 heures, ne serait-ce que pour vivre la folie d'un encan. Ça va être assez mémorable. On s'en va pour aujourd'hui, on écoute Lou Labelle avec Somos Magneticus sur les ondes de CKRL. Somos Magneticos, Lou Labelle, c'était, ma foi, fort dansant, un peu plus que je me faisais aller le popotin en studio, mais j'ai une réserve parce qu'il y a quand même une grande vitrine dans le studio de CKRS. Vous êtes déjà passé en face, vous savez ce dont, de quoi je parle. Je me suis rendu compte en discutant avec Patrick Dubé que j'avais oublié de vous mentionner quand même une proposition assez intéressante dans le cadre du lieu, et c'est celle de Guy Sioui-Durand qui propose une conférence performance d'une quinzaine de minutes. Donc, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus intime et d'éphémère dans votre salon, je ne sais pas si l'endroit est déterminé d'avance. À tout moins, il y a ça. Puis la mise de départ est $1, donc c'est quand même très accessible. Également, j'avais oublié de mentionner, je voulais poser la question, mais je vais le mentionner en commentaire. Quand même, à Québec, on a beaucoup de centres d'artistes, mais il y a quelques galeries. Soit c'est assez, ça peut être assez difficile ou un petit peu moins accessible de s'acheter des œuvres d'art. Donc là, vraiment, les artistes viennent à vous et ça leur permet de se faire connaître et également de vendre à bon prix et bon, de participer à l'événement. Bref, ce jeudi, je le disais, c'est à compter de 17h. Si vous avez envie de faire une bonne action, autre que celle d'encourager un artiste local, ben, le 15 et 16 décembre, vous allez manger une soupe de solidarité au centre de jour L'Arche Étoile. Donc, vous mangez la soupe et vous repartez avec le bol qui a été conçu par des étudiants en céramique à la Maison des métiers d'art de Québec. Et dimanche, le 18 décembre, à 15h, il y a une série de prestations musicales de Pablo Resgado qui est présentement en résidence à la Chambre Blanche, donc qui va faire des duos avec des musiciens et une chanteuse de Québec. C'est déjà tout pour l'émission cette semaine. Je remercie Raymond Poirier pour son travail à la mise en onde et je vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique. Donc, bonne soirée à tous.